Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans ce numéro 113 de Marie Nostrum, notre magazine qui se promène en Méditerranée et dans les pays qui l'abordent, en compagnie de spécialistes très divers qui nous font part de leurs travaux, de leurs recherches en cours. En bref, une mine d'informations, de connaissances qui couvre plusieurs siècles et même plusieurs millénaires. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la capitale méridionale de l'Empire romain en Gaule, Narbonne, dont l'histoire a été pendant des siècles oubliée. Aujourd'hui, cette ville retrouve son passé très riche. C'est devenu depuis quelques années un grand chantier archéologique qui met au jour des monuments divers qui attestent de l'importance de cette cité. Nous accueillons donc deux invités, puisque cette fois-ci, j'ai deux invités. Alors, premier invité, qui vont donc discuter ensemble, bien sûr, de ce thème. Nous accueillons donc Sandrine Augusta Boularo. Bonjour.
Bonjour Raymond.
Vous êtes professeur d'archéologie et d'histoire de l'art dans le monde romain à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Vous abordez principalement l'architecture et l'urbanisme dans la partie méridionale de l'Empire romain, très exactement où on va étudier Narbonne, dans la Gaule narbonnaise, une bonne partie de ce travail se réalisant dans l'étude des documents épigraphiques. Et puis, deuxième invité, Cyril Courrier. Bonjour Cyril.
Bonjour Raymond.
Maître de conférence en histoire ancienne au Centre Camille Julian, laboratoire de la MSH Aix-Marseille Université, dont nous sommes bien sûr partenaires. Et Cyril Courrier a déjà été invité dans notre émission. Donc vous êtes antiquisant et vous travaillez sur l'Empire romain. C'est d'ailleurs sur ce thème que nous avions fait la première émission. Vos centres d'intérêt s'orientent particulièrement vers l'histoire des milieux populaires, urbains, et aussi vers l'histoire de la gestion des villes antiques, en premier lieu la capitale de l'Empire Rome, encore une fois c'est là-dessus que nous avions déjà discuté, et là on va passer à Narbonne. L'un et l'autre, vous avez publié récemment aux éditions du CNRS, donc ça s'appelle CNRS Édition, un ouvrage qui est consacré à Narbonne dans la série Inscriptions latines de Narbonnaise. Voilà, et donc ce livre est en vente dans toutes les très bonnes librairies. Donc si ça vous intéresse, précipitez-vous, vous demandez à le commander, bien sûr, parce qu'on ne va pas le trouver facilement. Alors, Narbonne, la Romaine, le réveil de son histoire, c'est un peu comme ça que j'ai intitulé cette émission. Et donc, pour dire deux mots d'introduction, je citerai deux citations. Il y en a un, c'est un poète, et l'autre, je ne sais pas ce que c'est, mais une citation qui date donc du XVIIe, mais peut-être que Cyril nous donnera des informations, puisque tout à l'heure, il a développé la vie et le comportement de ses auteurs. Alors, digne objet de notre courroux, vieille ville toute de fange, qui n'est que ruisseau et égout, pourrais-tu prétendre de nous le moindre vers à ta louange ? C'est bien sûr, le poète s'adresse à Narbonne, et c'est pas très sympa, on va dire. Et puis, d'autres vers qui sont plus récents, 19e, qui rappellent la splendeur passée. Les siècles ont détruit cet éclat passager que l'antique Narbonne offrait à l'étranger. Voilà, donc c'est bien l'illustration de ce qui est arrivé à cette ville et sur laquelle on va obtenir quelques informations complémentaires de la part de nos invités. Alors, on peut commencer peut-être par ça, donc évoquer cette longue histoire qui fait que de la capitale des Gaules méridionale, on a abouti à une ville où il n'y avait plus rien qui rappelait, ou pratiquement plus rien. Non, il y avait des choses quand même, mais pas beaucoup de choses qui rappelaient son passé de capitale. Alors, je vous donne la parole. Alors, un petit peu d'histoire de cette ville.
Alors, si on repart des vers dont il a été question, donc c'est extrait d'un récit de voyage qui a été rédigé par deux individus connus sous le nom de Chapelle et Bachaumont, qui avaient entrepris un voyage en France en 1656 et qui ont fait étape à Narbonne. Et ils tombent mal, le temps est très difficile. Et ils font une relation de leur voyage qui est absolument très dur pour Narbonne. Et le problème, c'est que les deux individus parisiens sont très connus. L'un est un poète, Bachaumont, François le Coigneux de Bachaumont. Et l'autre, Claude-Émile Emmanuel L'Huillier, dit Chapelle, est un ami intime de Cyrano, d'Adoucy et de Molière. Et du coup, leurs vers ont un impact très important, et ces vers seront inlassablement repris pratiquement jusqu'au XXe siècle dans les guides, dans les récits de voyage, dans les guides, dans les descriptions géographiques, donnant de Narbonne une image absolument horrible. Alors, l'image d'une ville insalubre, évidemment, ils étaient mal tombés, mais le temps n'explique pas tout, et c'est le sens des travaux de la personne qui a cité ces vers et les a fait connaître sur Narbonne, c'est Chantal Alibert, qui dit que, en fait, Narbonne a un problème avec son passé. En fait, Narbonne antique a été la capitale de la Gaule narbonnaise. On imagine la splendeur d'une capitale provinciale. Et quand les voyageurs arrivent à Narbonne, ils ne trouvent rien ou presque. Et ça crée une forme de déception. Hein. Ça va être un topos des descriptions de Narbonne jusqu'à la fin du 19e siècle. On va systématiquement retrouver cette opposition entre ce que l'on attendait de voir, ce que l'on s'attendait à voir en visitant Narbonne, notamment quand on la compare à Carcassonne, visitée juste avant ou juste après, et ce que l'on voit réellement. Ça va se retrouver chez Stendhal, chez Milin, chez Henry James, qui donne de Narbonne une image plus ou moins difficile. Mais par exemple, James, c'est dramatique. Enfin, l'image de Narbonne est encore hyper négative. Pour ces raisons-là, parce que ce sont des érudits pétris de culture classique et qui se font une idée de Narbonne qui n'est pas celle qu'ils trouvent en arrivant, au point que ça devient véritablement un stéréotype en fait sur Narbonne que d'opposer le passé à la réalité, alors qu'en réalité l'histoire de Narbonne, c'est pas celle d'un long déclin du XVIe siècle au XXe siècle. Hein. Évidemment, il y a des périodes de moins bien, mais le XVIe siècle, économiquement, se passe très bien. Le XVIIe, ça dépend des secteurs. Et en réalité, le déclin vraiment de Narbonne ne commence qu'au XVIIIe siècle, pas avant. Donc, il y a un écart à combler entre l'idée, enfin l'image, la reconstruction du passé et ce qui est réellement l'histoire de Narbonne entre XVIe et XXe siècle.
Oui, il y a un peu confusion entre les deux, entre le fait que les restes, en quelque sorte, de la ville romaine disparaissent, mais pas forcément avec comme effet une ville qui est complètement abandonnée.
Ah non, c'est une ville qui apparaît comme fangeuse, insalubre à cause de ses murailles. La ville est enserrée dans des murailles qui ont été construites au début du XVIe siècle. Et qui donne parfois l'impression de gêner la croissance urbaine. Mais c'est le cas dès le moment de la construction. Hein. Deux voyageurs balois, qui s'appellent Félix et Thomas Plater, disent dès 1559, si je me souviens bien, il y en a un qui vient un petit peu avant, que Narbonne, c'est le cloaque de la France, parce qu'en fait, ça enserre, enfin ça donne une idée de ville enserrée, emprise dans ses murailles. Mais les mêmes étudiants balois, Félix et Thomas Plater, reconnaissent à quel point ces murailles sont spectaculaires, que c'est incroyable de voir l'antiquité affichée dans les murailles. Donc il y a une espèce de dissonance entre ce que l'on voit, ce que l'on ressent entre le passé et l'histoire présente de Narbonne au moment où ces voyageurs la vivent, en fait.
Je crois surtout que les gens sont extrêmement déçus parce que même si la muraille de Narbonne est exceptionnelle c'est une muraille du début du XVIe, hein, puisqu'elle date de François Ier, avec tous ces blocs antiques aussi bien écrits que sculptés enchâssés dans la muraille, mais c'est pas de l'antique. C'est-à-dire que Narbonne ne soutient jamais la comparaison avec les autres villes du sud de la France. On pense bien sûr à Arles ou à Vaison ou à Orange où le théâtre est encore debout, etc. Et des tas d'autres monuments qu'on voit, la maison carrée de Nîmes ou le temple d'Auguste et Livy à Vienne, qui sont des monuments intacts depuis l'Antiquité, mais qui étaient des villes qui n'étaient pas la capitale de la Narbonnaise. Donc effectivement, si on commence le voyage en passant par Orange, Arles, Nîmes, et puis qu'on arrive à Narbonne, évidemment, on est déçu parce que on n'a aucun monument debout, et ce qui est debout, ce n'est jamais qu'un rempart du XVIe siècle. Donc on est déçu, surtout que les textes nous présentent Narbonne comme une petite Rome, une seconde Rome, qu'à cette époque, ben, nombre d'élites dont a parlé Cyril, c'est-à-dire c'est effectivement cette jet-set, pour faire un anachronisme, hein, cette jet-set parisienne avait sûrement dû aller à Rome et s'attendait à voir des monuments debout. Et on arrive à Narbonne et on ne voit que des choses, enfin des bâtis médiévaux et modernes. Et je me demande aussi si dans les vers que tu as cités au début, il n'y a pas un jeu de référence littéraire quand même de consacrer comme ça des vers à une cité, parce que il y a deux grands textes fameux du 4e et du 5e siècle, donc en particulier un poète du 4e qui s'appelle Ozone, qui est un poète gaulois, bien sûr qui écrit en latin à cette époque-là, et qui a fait ce qu'on appelle un Ordon Urbium Nobilium, c'est-à-dire une liste des cités célèbres du monde de l'Empire. Et dans cette liste, on retrouve bien sûr des villes comme Athènes ou Rome, mais on retrouve aussi Narbonne, Arles, Bordeaux. Et il donne une description évidemment très élogieuse de Narbonne en un temps, au 4e, où évidemment les monuments étaient encore debout. Et Sidoine Apollinaire, au 5e siècle, rédige un carmen, c'est-à-dire un grand poème entièrement dédié à la ville de Narbonne, qui avait dû garder encore, du moins en partie au 5e siècle, des éléments de cette parure exceptionnelle. Donc eux, tous les deux, ils ont écrit des poèmes très élogieux sur la ville, et puis effectivement, que connaissaient peut-être, hein, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est un genre littéraire antique que de faire l'éloge des cités à travers des poèmes. Et là, il fait un anti-éloge, en fait.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, pour le moins, avec la fange et les égouts, etc. Donc, je me demande s'il n'y a pas aussi un jeu littéraire de la part de ce poète du XVIIe siècle, une espèce de jeu de décalage.
Oui, parce qu'au bout du compte, ce qu'a fait faire François Ier, c'est cette construction des murailles avec enchâssé des pierres. Finalement, ça fait presque une exposition intéressante. Ça fait une exposition des pièces qui est intéressante, visible, bien visible, je pense.
Mais c'était l'idée, justement.
C'était l'idée.
En fait, François Ier veut faire de Narbonne une espèce de lieu d'exposition. D'abord parce que il la connaît pour y séjourner quand il passe dans la région. Ensuite, parce que Narbonne est ville frontière, place frontière. Donc, c'est-à-dire que c'est un point d'entrée ou de sortie vis-à-vis de l'Espagne, à un moment de grande rivalité entre la monarchie espagnole et la monarchie française. Il veut faire de Narbonne une place forte, d'où les murailles, mais on est à la Renaissance, donc on est dans les années 1510. En fait, les travaux commencent dès 1495, mais le gros des travaux, c'est 1510 et 1523. On est à un moment de redécouverte de l'Antiquité, de son Antiquité. Il veut en donner une image qui est une image lissée, polissée, qui correspond au règne qui est celui de François Ier. Donc c'est l'Antiquité de Narbonne exposée dans les murs, mais c'est d'abord l'Antiquité de François Ier. On va choisir les jolis blocs, on va les mettre autour des portes, et surtout, on va faire le ménage. C'est ce que dit un antiquaire du XVIIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe, qui s'appelle Guillaume Lafont, qui explique dans la préface à son ouvrage, à son recueil d'inscriptions, que justement François Ier a fait en sorte que tout ce qui était ruine romaine, parce qu'a priori la romanité à Narbonne était toujours présente, mais pas dans un état présentable pour le roi, a été nettoyé, si on peut dire, et que ce qui était jugé intéressant a été placé directement dans les remparts. Et au final, il ne reste de l'Antiquité de Narbonne que ce que François Ier ou ses ingénieurs ont laissé dans les murailles. D'où cette impression de vide dont parlait Sandrine quand on compare Narbonne à Arles ou à Nîmes, où il n'y a plus un seul monument en élévation.
Oui, certes. Enfin, on peut quand même remarquer également que, par exemple, à Arles, bon, certes, il y a un cirque énorme, là, qui trône au milieu de la ville. Enfin, pendant une longue période, on ne le voyait plus, quoi. Il était noyé dans la ville. C'est-à-dire qu'il y avait des constructions à l'intérieur, dessous, dessus, partout. Hein. Et donc, ça n'apparaissait plus du tout. Donc, finalement, Narbonne n'a pas... Enfin, c'est pas fondamentalement différent, quoi.
Alors, hein? C'est différent pour une simple raison, c'est que Narbonne, c'est la capitale, c'était la capitale,
oui,
de la province.
Bien sûr, bien sûr.
Et oui, les descriptions qu'on donne effectivement aux zones essidoines parlent de portiques, d'amphithéâtres, de bains, de cirques, de capitoles, font que l'horizon d'attente pour un voyageur à l'époque moderne était gigantesque, en fait. Très important, très élevé. Il est à la hauteur de ce que devait être Narbonne dans l'Antiquité. Quand on voit ce qui sort de fouilles, effectivement, ça laisse supposer une monumentalité impressionnante. Ou ce qu'on a trouvé place Victor Hugo, Sandrine en parlera tout à l'heure, laisse supposer quand même des monuments d'une ampleur très importante. Le déficit de monumentalité aujourd'hui est énorme, en fait, pour la ville.
Et oui, c'est ça.
Et s'explique d'ailleurs toujours assez mal. C'est-à-dire que les fouilles d'une collègue, Corinne Sanchez, sur les ports de Narbonne, a montré que pour maintenir en état des digues, du chenal qui permettait aux bateaux, à certains petits bateaux, de remonter jusqu'à Narbonne, leur emploi de blocs d'architecture qu'elle a pu dater de la fin du 4e, du début du 5e siècle, enfin la digue, hein, la réparation de la digue, tend à montrer que ben dès la fin du 4e, début du 5e siècle, certes c'est l'Antiquité tardive, mais c'est quand même pas très tard, on avait détruit et volontairement fracassé en petits fragments tout le décor en marbre de la cité, parce que elle a trouvé de nombreux fragments de dimensions différentes, de qualités de marbre différentes. Donc la réutilisation de plusieurs monuments réduits en kit, hein, voilà, et qui montre un acharnement. C'est ça surtout, moi, qui m'étonne, je travaille quand même beaucoup sur l'architecture, qu'on réutilise un monument qui tombe en déshérence, qu'on réutilise ses blocs, etc., on comprend. Mais là, le marbre, en outre, est très difficile à exploser en morceaux, et les fragments que j'ai vus montrent un véritable acharnement. Alors certes, les petits morceaux sont plus faciles à transporter que les gros, mais cela demande une volonté et un travail énorme, surtout à la fin du 4e, début du 5e siècle, pour réduire comme ça en miettes tout un décor architectural que d'habitude on a plutôt tendance à réutiliser, parce qu'on a sous la main des blocs, au mieux ben, on va les retailler un peu, puis on va les réutiliser dans un autre monument. C'est évidemment ce qu'on a fait, tu l'as évoqué, Raymond, à Arles ou à Nîmes ou à Orange, on se réinstalle dans les bâtiments, on en transforme la fonction, mais on s'acharne pas. Et l'édit de Théodose concernant effectivement la mise à bas des statues des dieux païens, etc., il y a qu'à voir à Rome, ils ont jamais détruit les temples, ils les ont très intelligemment réutilisés en basilique, en cathédrale, en église, mais à quoi bon détruire un très beau bâtiment? On en change la fonction, certes, on enlève la statue, et encore, on enlève la tête, et puis des fois...
On la remplace,
voilà. Mais on n'est pas fou au point de tout saccager. Moi, c'est ça, pour l'instant, qui, en tant qu'archéologue, m'interpelle. C'est cette destruction en partie volontaire sur certains monuments.
On va faire une petite pause musicale. Alors, on va faire dans le classique. Petite pause musicale avec la Clémence de Titus de Mozart. Thank you. Alors maintenant, nous allons évoquer ce que j'aime bien faire dans mes émissions, évoquer les sources, puisque cette connaissance donc de Narbonne la Romaine, elle se fait bien évidemment, comme toute recherche historique, elle se fait grâce à des sources. Alors on a des sources épigraphiques, des sources archéologiques et bien d'autres, bien sûr. Alors je vais vous donner la parole, vous allez échanger, puisque vous avez travaillé tous les deux sur des sources à peu près... pas tout forcément identique, mais enfin, vous vous êtes bien partagé le travail. Alors je vous laisse vous partager l'évocation.
Alors quand on travaille sur les provinces, on a peu de sources littéraires. Les textes, on en a parlé tout à l'heure, Ozone, Sidoine, qui sont des éloges convenus de la cité de Narbonne. Mais on n'a pas ce qu'on a pour Rome, c'est-à-dire des descriptions de rapports, de la correspondance de Cicéron, des choses sur les émeutes, sur la vie politique. Les sources littéraires sont... Il y en a, mais peu. En fait, c'est souvent des bribes, c'est assez disparate. Le cœur de l'étude, c'est les inscriptions. Ce sont les inscriptions, c'est-à-dire les traces matérielles écrites qu'ont laissé les locaux, les Narbonnais en l'occurrence, souvent des épitaphes, parce que on était bavard sur les tombes dans l'Antiquité, mais aussi des inscriptions qui peuvent être de genre extrêmement variés, sur des supports eux-mêmes extrêmement variés, des supports institutionnels, des inscriptions, des textes de loi. On a par exemple à Narbonne un cas exceptionnel de loi du Flamine, c'est-à-dire les droits et devoirs qui étaient ceux de l'un des prêtres du culte impérial, conservés sur du bronze. Donc c'est assez rare parce que les textes de loi sont donc sur le bronze et le bronze a souvent été refondu. Mais le cœur de métier, c'est vraiment l'épigraphie, et le corpus narbonnais est assez important. On compte aujourd'hui environ 1250 inscriptions, ce qui est conséquent, mais pas exceptionnel. On en a à peu près la même quantité à Arles. Nîmes, c'est 2000 inscriptions. De manière générale, on a des cités, ça fait partie, Narbonne se situe dans le haut en termes de quantité, mais c'est pas une quantité exceptionnel. Vienne, il y en a 1100. Ce qui fait la particularité de Narbonne, c'est le mode de transmission, en fait. Parce que on a le souvenir de 1200 inscriptions, mais ce ne sont pas 1200 inscriptions conservées. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la plupart étaient enserrées dans les murailles modernes construites au début du XVIe siècle. Or, au XIXe siècle, on a démantelé ces murailles pour les raisons évoquées supra déjà, qui étaient que c'était un frein à la croissance économique, c'était un frein à la salubrité, il y a encore une épidémie de choléra à Narbonne en 1854. Du coup, au terme de luttes importantes, les murailles sont démantelées entre 1868 et 1884. Ce qui importe ici, c'est la façon dont on les démantèle. Ce sont des murs qui ont parfois jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. On le fait à l'explosif. Ce qui entraîne évidemment des pertes importantes dans la collection épigraphique, sans parler de la façon dont c'est descendu. On les descend par paquets, parfois 20, 30 mètres cubes. Une société d'érudits locaux qui est fondée en 1833, la Commission archéologique et littéraire de Narbonne, dont un individu connu, Paul Tournal, est le secrétaire, a la charge de les stocker. Seulement, c'est une tâche gigantesque. Beaucoup de choses sont perdues, sont abîmées. Tant et si bien qu'aujourd'hui, près de 400 inscriptions ne sont connues que par voie antiquaire, c'est-à-dire par tradition indirecte. Tout ce qui a été perdu, heureusement, a été à un moment ou à un autre photographié par des antiquaires locaux. Et pas seulement locaux, Séguier par exemple, Annie de Nîmes est venu les relever. En effet, les murailles ont attiré très tôt l'œil des érudits qui sont venus, c'était hyper spectaculaire, ils sont venus en fait relever, copier les inscriptions qui étaient dans les murailles. Alors, c'est pas toujours bien fait parce qu'il fallait le faire d'en bas, les murailles sont très hautes, on le faisait à la lunette. Mais enfin, ce sont des individus qui ont très bien travaillé pour l'époque et qui nous ont laissé des recueils qui permettent aujourd'hui de connaître des inscriptions qui sont perdues. Et le travail qu'on a fait avec Sandrine et toute notre équipe, ça a été de réutiliser cette mémoire antiquaire parce qu'elle avait été jugée sévèrement au XIXe siècle, souvent corrigée à tort, alors qu'en réalité, revenir au codex, comme on dit, permet de se rapprocher de toutes ces pierres dont on a aujourd'hui perdu la trace, que ce soit par destruction ou par disparition, tout simplement, lors des transferts.
Alors, cette collection, elle est certes importante sans être exceptionnelle, l'a bien dit Cyril, mais en même temps, elle est tout à fait particulière parce que, comme on l'a montré dans notre volume, je crois, et la suite des inscriptions qu'on est en train d'étudier, qui sont essentiellement funéraires, hein, il en reste encore 900 à étudier. Donc, dans notre premier volume, on voisine les 300 et il y en a encore plus de 900 à étudier. Montre une société très italienne. Alors, c'est pas étonnant dans la mesure où Narbonne, c'est une colonie romaine, donc avec des colons venus d'Italie qui est installée en 118 avant notre ère. Et on a une collection donc qui reflète cette nature très italienne de la population. Et une population qui est venue avec ses habitudes et qui, évidemment, va les garder. Ça va se transmettre de génération en génération. Et ce qu'on voit, surtout à la naissance de l'épigraphie, c'est-à-dire qu'on n'a rien qui remonte au début de la colonie de -118. Les premières inscriptions, voilà, on a parfois du mal à les dater, mais les plus anciennes, elles doivent dater des années -50, peut-être -40. C'est là que commence à apparaître l'écrit dans l'ensemble de la Gaule du Sud. Les plus anciennes traces, c'est vraiment Narbonne et aux environs. Et là, on voit qu'on a affaire à des Italiens qui sont installés avec leurs, j'allais dire leurs dépendants, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire ils viennent avec leurs esclaves, avec leurs affranchis et tout leur mode de vie, y compris dans la retranscription des honneurs quand ils font l'éloge d'un magistrat, avec leurs pratiques funéraires et aussi leur formulaire funéraire que nous voyons sur les inscriptions. C'est en ça que cette collection, elle est particulièrement intéressante, que la publication en était attendue depuis longtemps. C'était de voir des Italiens installés dans un territoire gaulois parce que sur les 1200 inscriptions et quelques comptes la collection, si on a pu dénicher, et encore on les a bien cherchés, 10 pérégrins, les pérégrins c'est donc des indigènes, des Gaulois, on en a, hein, je crois, une dizaine, quinzaine, oui. Ou peut-être on en trouvera encore peut-être quelques-unes dans les funéraires. Ça veut donc dire, non pas qu'ils étaient tous morts, ni qu'ils avaient disparu, mais qu'ils étaient rejetés en dehors de la ville. Ils devaient être sur le territoire et n'avaient pas les mêmes pratiques, donc étaient largement invisibilisés. Et en ça, on a une collection qui est très différente de Nîmes, qui est pourtant toute proche, où là, comme c'est une colonie latine, donc les indigènes sont restés présents, on a énormément d'inscriptions mentionnant des Gaulois, des descendants de Gaulois, et qu'ils font savoir. Donc, à l'intérieur de la même province, on peut avoir des cités qui peuvent toutes les deux avoir des liens très forts. On sait l'attachement de Nîmes avec, par exemple, l'empereur Auguste et sa famille, etc. La maison carrée est là pour le refléter. Mais c'est une population de Gaulois très romanisée et souvent aisée, alors qu'à Narbonne, on a vraiment des Italiens. Donc c'est vraiment très intéressant de voir, à travers l'épigraphie, hein, si on n'avait pas l'épigraphie, on aurait bien du mal à avoir cette connaissance aussi fine de la société.
Mais ce sont aussi les choix de François Ier qui expliquent l'état de la collection, c'est-à-dire son ancienneté. Quand on a construit les murailles, de quoi on s'est servi ? Des blocs qui étaient eux-mêmes insérés dans les murailles, dans la muraille antique, tardo-antique, c'est pas trop, et la muraille médiévale, celle qui enserrait le bourg. Or, qu'est-ce qu'on a utilisé ? Des blocs qui font schématiquement 1 mètre par 50 cm, qui étaient facilement réinsérables dans les remparts, moyennant, pour les ingénieurs ou les ouvriers de François Ier, enfin on dit François Ier, mais ça commence dès Louis XII même, qui permettait un minimum de travail sur ces blocs. Le résultat pour nous, c'est qu'on a aussi un état de la collection qui correspond à un type d'usage qui est celui de ces gros blocs en calcaire qu'on peut dire schématiquement moins 50, enfin 50 avant, 50 après. Et dans la mesure où on a fait le nettoyage du reste, nous avons de Narbonne qu'une vision extrêmement spécifique, rarissime à l'échelle des corpus épigraphiques provinciaux, très ancienne, mais qui est aussi une espèce d'instantané lié à l'histoire de la collection.
Oui, donc oui, le chantier de la Robine, on en parlera plus tard. Donc, eh ben voilà pour les sources, on va faire une deuxième pause musicale. Alors c'est une musique, une chanson. Oui, enfin, une invocation à Mercure, c'est une reconstitution de musique ancienne avec toutes les réserves qu'on peut émettre sur ce genre de travail.
Clarine pos Atlantis, Hades, quem montibus olim, ed idit Arcadis pleias una Iovi, pacis et armorum superis imisque deorum, arbiter alato qui pede carpis iter, laete lira e pulsu, nitida quoque laete palaestra, quod idicit culte lingua docente loqui.
Alors, on va revenir donc sur le chantier de la Robine, je l'ai annoncé tout à l'heure, parce qu'en fait, l'intérêt de ce chantier, c'est que il prolonge un petit peu il prolonge beaucoup donc l'histoire de Narbonne, au-delà de ce que les murailles pouvaient apprendre, puisque les murailles, c'était entre moins 50 et 50. Hein. Et donc là, ça va beaucoup plus loin, premier, deuxième siècle à peu près, ce qui va se trouver là.
Tout à fait. D'abord, il faut le rappeler, c'est une fouille exceptionnelle qui a été motivée par la construction, comme c'est souvent le cas, de petits immeubles juste à côté du musée Narbovia. Et là, on peut rappeler l'anecdote tout à fait fameuse, c'est que préalablement au musée Narbovia, bien sûr, il y a eu des diagnostics pour voir s'il n'y avait pas des vestiges de soupe, et ils n'ont strictement rien trouvé. Et quand ils ont construit ces petits immeubles, mais vraiment à 50 mètres à côté du musée, et là, ils sont tombés sur un chantier exceptionnel, par la qualité des vestiges conservés. C'est une nécropole et elle est très bien conservée, tout simplement parce que on est au bord de la Robine. La Robine, c'est le nom qu'on donne à Narbonne, au cours d'eau qui passe, qui est le fleuve Aude. Et comme on est en bordure et que on est en régime cévenol, tout le monde connaît les pluies, les intempéries du sud, il y a des crues récurrentes et cette nécropole a été de façon récurrente submergée par l'eau, la terre, et a été véritablement fossilisée. Donc lors du diagnostic, il a été vu qu'elle était particulièrement bien conservée, non seulement l'intérieur des tombes qui est souterrain, mais aussi tous les aménagements de superficie. C'est ça qui était exceptionnel à la Robine. Et l'autre élément qui a retenu l'attention des archéologues, c'est le caractère très italien de cette nécropole, là aussi, avec ce qu'on appelle des conduits à libation. C'est le fait que comme on venait fréquemment faire des offrandes aux défunts, on venait banqueter directement sur les tombes. Il y avait même par endroits des triclinias, c'est-à-dire des lits où on s'allongeait pour manger. À date récurrente, hein, au Parentalia, au Feralia, c'est toutes les fêtes un peu comme nous la Toussaint, hein, on venait sur ces tombes et on versait du vin dans un conduit qui arrivait directement au-dessus de l'urne avec les cendres du défunt. Donc ça, c'est vraiment très italien et c'est très rarement conservé parce que, ben, comme c'est en surface, toutes ces triclinias, ces petits aménagements, souvent ont disparu rasés. Donc cette nécropole de la Robine, elle a d'emblée, au moment du diagnostic, été jugée fouille exceptionnelle. Et c'est l'INRAP qui en a été chargé, donc l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, qui dépend de la recherche et du ministère de la Culture. Et la fouille a été dirigée par Valérie Bell, qui est vraiment actuellement une des meilleures connaisseurs du funéraire, en tout cas pour la moitié sud de la France. Et chantier d'exception, un an et demi de fouille, et par moment elle tournait avec 40 archéologues sur le terrain. Donc ça a été l'argent, beaucoup d'argent, hein, l'État et la région ont mis énormément d'argent, je vous dirai pas combien, mais beaucoup d'argent dans cette fouille d'exception et qui a été à la hauteur de ce qu'on attendait, puisque ça, 1670 tombes ont pu être fouillées, qui vont effectivement des années 50 après jusqu'au 3e siècle. Et c'est surtout effectivement deuxième moitié du 1er siècle et puis deuxième, 3e siècle où on a beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que ça donne une image totalement complémentaire des sources épigraphiques. On l'a, pour les sources épigraphiques, on l'a dit, c'est tous ces gros blocs qu'on voit au mur lapidaire du musée, c'est-à-dire des énormes enclos funéraires avec des gros murs qui les entourent, des mausolées, des véritables mausolées, donc des monuments d'ampleur, et surtout donc une population qui a les moyens de se payer de tels enclos funéraires. Ici, à la Robine, on a des choses beaucoup plus modestes, donc des petits murs, souvent construits avec des moellons, etc. Pas de mausolées, des petites structures mal bâties, sommaires, et à destination d'une population qu'on pourrait dire plébéienne, mot qui est cher à Cyril Courrier, qui a beaucoup travaillé sur ces milieux plébéiens, hein, populaires, pour tenter de traduire le terme. Et on le voit bien par les inscriptions. Et là, du coup, on a un corpus que Valérie Bell nous a proposé d'étudier, et c'est vraiment très intéressant parce que ça complète ce que nous, on connaissait. On a là des petites plaques en marbre, souvent de quelques dizaines de centimètres, qui étaient simplement maçonnées, plaquées sur des petits monuments ou sur le mur d'enclos, et qui reflètent des gens beaucoup plus modestes. Personne n'est magistrat, personne n'est prêtre, c'est à peine si on mentionne son métier, etc. Et alors que, évidemment, dans les mausolées, c'était l'élite, c'était les magistrats, c'était les sévires, etc., les grands commerçants. Et là, on a un profil social, je dirais, hein, très différent. Et grâce à l'archéologie, les études sont en cours sous la direction de Valérie Bell, on va pouvoir rentrer vraiment dans les pratiques rituelles, funéraires. C'est répété, hein. C'est très différent d'aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, ben voilà, à la Toussaint, on va mettre une couronne de fleurs sur la tombe de papy-mamie, et puis après, on n'y pense plus toute l'année. Dans l'Antiquité, ce serait très différent. Les morts n'existent que parce qu'on les invoque, parce qu'on rappelle leur nom. Et ça donne lieu à de véritables festivités sur les tombes, qu'on a du mal à imaginer, nous, aujourd'hui, dans notre monde effectivement très aseptisé. Personne n'irait manger la pizza sur la tombe de papy ou de mamie.
Alors, ça nous introduit ça directement sur la ville antique, sur le fonctionnement, la vie de la ville antique. Cette ville, donc, on va essayer d'avoir un point un petit peu sur cette ville. Alors, le site, pourquoi est-ce que cette ville s'est construite à cet endroit-là? Est-ce qu'il y avait autre chose avant?
Non, la ville la plus proche, c'est Montlaurès, qui est un oppidum gaulois qui est bien connu, qui a quelques kilomètres, qui est en hauteur, qui a frappé Monet. Et quand on voit le déclin de Montlaurès, émerge Narbonne, donc à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est vraiment une fondation ex nihilo, hein, à partir de rien, voulue par les Romains, qui décrit vraiment le choix de l'endroit, Cicéron nous dit, hein, comme un lieu de défense contre les ennemis. Alors les ennemis, c'est certes les Gaulois, mais c'est aussi parce que Narbonne est implantée sur ce qui va être la Via Domitia. C'est le lieu de passage des Italiens en direction de l'Espagne. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'Hispanie est déjà province romaine et que le problème pour les Italiens, c'est de rejoindre l'Hispanie à moindre coût, si je puis dire, c'est-à-dire sans avoir à combattre tous les Gaulois qui se trouvaient sur le chemin. Donc, effectivement, c'est prévu comme un lieu de repli, de renforcement. Je ne sais pas traduire propugnaculum, Cyril, comment tu traduirais ça? C'est une place forte.
Mais une avancée. Un bastion, peut-être.
Voilà, un bastion, voilà. Un bastion romain sur un territoire ennemi, mais construit à partir de rien et réservé aux Italiens.
D'accord. Donc ça, c'est l'installation de cette ville. Et donc, quand elle s'installe, le peuplement, il se fait comment là? C'est une colonie militaire,
c'est une colonie de droit romain. C'est-à-dire que c'est une population de civils qui vient de plusieurs territoires en Italie, en particulier de la moitié nord, et qui est installée à Narbonne, sur le site même. Des arpenteurs ont préalablement découpé le terrain et on donne des lots à des individus qui sont des personnes privées. Là, à Narbonne, ce n'est pas une colonie encore militaire à ce moment-là. Ce sont des civils, en fait, qui viennent. En revanche, tous les indigènes qui étaient sur place sont gentiment priés d'aller voir ailleurs. Et le site est occupé exclusivement par des Italiens, à qui on donne de quoi vivre le temps d'exploiter le lot de terre qui leur est attribué au titre de la déduction.
Ouais, une installation assez classique, finalement.
Complètement classique. C'est juste qu'elle est très ancienne.
Ouais.
Parce que 118 avant Jésus-Christ, c'est la première colonie hors d'Italie. La première colonie romaine hors d'Italie. Donc c'est la plus ancienne, en fait.
Ah d'accord, c'est la plus ancienne.
Et on choisit toujours les bonnes terres, hein. Bien sûr. Quand,
oui, c'est ça. C'est...
Voilà, Cyril dit qu'on a demandé gentiment aux Gaulois d'aller planter leurs céréales ailleurs. C'est bien parce que là, on est dans les terres les plus fertiles autour de l'Aude, dont on a fait pareil à Arles, on a fait pareil à Valence, etc.
Mmh. Oui, bien sûr. Et cette ville, donc rapidement, les Romains vont y trouver un intérêt pour la transformer en capitale.
Sur le plan archéologique, ce qui est assez sidérant, c'est que les textes nous disent qu'elle est créée en moins 118, mais qu'on n'a aucun niveau archéologique antérieur à moins 50. Il faut quand même le savoir, mais parce que c'est très peu fouillé aussi. Mais on a le même problème à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, on nous parle bien d'Aquae Sextiae, de l'installation des troupes et tout ça, mais Nourianine, qui dirige le service de fouilles, n'a aucun niveau archéologique antérieur à moins 50. Donc, à la différence, c'est que Aix est très fouillé, alors que Narbonne, on peut toujours dire « Oh, ben c'est juste qu'on n'a encore pas trouvé », parce que de fait, il y a très peu de fouilles préventives dans Narbonne centre-ville. Mais on n'a pas non plus trouvé les tombes. Moi, je rêverais de trouver les tombes des premiers Italiens installés à la fin du deuxième siècle, mais on les a pas non plus, ces nécropoles-là. Donc, on a un vrai vide qui, là aussi, interroge, parce que ça veut dire que la première Narbonne devait être sûrement très réduite pour qu'elle soit encore dissimulée sous le vieux centre médiéval de Narbonne.
Mmh. Donc, il n'y a pas de source, là. Il n'y a rien de sources potentielles qui pourraient... Non, rien.
Ben non, on a strictement rien.
Pas un auteur latin qui aurait promené ses guêtres par là pour... Non, rien du tout.
On a des allusions dans Cicéron, voilà. On a deux textes de Cicéron, mais c'est des allusions où on comprend que Narbonne existe, Narbonne fait du commerce, mais ça s'arrête là. Pas de description.
On n'est même pas sûr qu'il y ait province avant une époque assez tardive. En réalité, Narbonne est la capitale provinciale, mais elle l'est peut-être pas dès la fondation, parce que la fondation de la province elle-même n'est peut-être pas antérieure à l'époque de Pompée. Autrement dit, quasiment 50 à 60 ans après la fondation de Narbonne. Donc, au départ, il est probable que le site ait été assez réduit, en fait.
Mmh. Et donc, son activité principale, avant d'être une activité de capitale, c'est une activité commerciale, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Alors là, en revanche, les sources sont archéologiques, sont très très importantes, et on a trouvé plusieurs dépôts, des baras, hein, voilà, des charges avec de la céramique qui montrent l'importance de Narbonne dans les échanges entre la Méditerranée et l'Aquitaine, en passant bien sûr par l'Aude et en remontant par la Garonne. Et là, les sources montrent que, enfin, les données archéologiques, une fois de plus, hein, que c'était un lieu de passage très important, ben, surtout pour le vin, dont les Gaulois étaient extrêmement friands. Donc, on a beaucoup d'amphores, mais on a aussi toute la céramique italique, la campanienne en particulier, deuxième encore au premier avant, qui était fabriquée ben, en Campanie, comme son nom l'indique, hein. Et qui était largement diffusé dans l'arrière-pays de Narbonne et jusque en Aquitaine et voire même au-delà. Oui. Et ça transitait par Narbonne.
Oui, c'est vraiment c'est un des éléments importants du commerce du sud de la Gaule, entre le sud de la Gaule et la péninsule italienne et l'Espagne.
Strabon dit de Narbonne que c'était l'emporion de la Gaule, c'est-à-dire l'interface entre la terre et la mer. C'est le point d'entrée des marchandises italiennes dans l'espace gaulois, et même oui, dans l'espace gaulois, notamment, donc Sandrine l'a dit, le vin. À ce moment-là, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome est dans une position dominante à l'égard de la Gaule, pas encore totalement conquise d'ailleurs. Et elle inonde littéralement le marché gaulois de son vin. Et le vend à des prix démentiels parce qu'elle est dans une position de domination. Mais Narbonne, c'est aussi un lieu de sortie pour les productions gauloises. Alors, un petit peu plus tard, mais ça permet l'exportation d'un certain nombre de productions gauloises. Et enfin, à une époque encore plus avancée, Narbonne constituera toujours un point d'entrée pour le ravitaillement des armées du limès rhéno-danubien. Alors, malgré tout, à un moindre degré, puisque à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, surtout au 1er siècle après Jésus-Christ, Narbonne est dépassée par Arles en termes de trafic, en termes de volume de trafic. La vraie porte d'entrée devient Arles et son port, ses ports de haute mer, les Sainte-Marie et Sainte-Marie et Fosses-sur-Mer.
Oui, Arles avait peut-être plus d'atouts.
Le Rhône.
Quoi. Et puis une meilleure situation, une meilleure position, c'est certain. Et il me semble avoir entendu parler dans une des émissions que j'ai faites avec la responsable de la recherche archéologique sous-marine en Corse.
Franca
Tchibekine, qui, il me semble, dans cet entretien, on avait parlé de ces bateaux qu'elle va chercher, puisque elle plonge, ces bateaux qui alimentaient Rome. Et il me semble qu'il y avait des choses qui arrivaient de Narbonne.
Oui. Elle supposait, mais c'est en train d'être vu parce que je crois que les amphores qui sont dans ce bateau de grande profondeur c'est des amphores qui seraient plutôt gauloises et fabriquées dans les environs d'Arles.
C'était de la région. Quoi,
mais en tout cas, c'était la Gaule du Sud, ça, il n'y a aucun problème. Après, les archéologues vont se déchirer sur des petites précisions, mais.
Oui, c'est vrai.
Mais le courant, Cyril l'a bien dit, le courant s'inverse complètement entre un moment au premier avant où Rome inonde de ses productions, en particulier de vin, les Gaules. Et après, en très peu de temps, en quelques décennies, le marché va être complètement inversé. Et puis, c'est le vin gaulois qui va inonder inversement l'Italie et surtout va servir aux soldats.
Ouais. Comme toujours.
Oui.
On va faire une dernière pause musicale. Et dans cette dernière pause musicale, on va écouter... Oh, tiens, un petit morceau de César et Cléopâtre, cet opéra de Karl Heinrich Graun.
Thank you.
Alors finalement, de cette ville qui a évolué dans le, dans le, dans le giron de l'Empire romain, qu'est-ce qui reste justement de cette évolution, puisque ça devient une capitale ?
Aujourd'hui, si vous voulez avoir quelque chose, c'est effectivement au musée Narbovia qu'il faut aller. Là est concentré tout ce que l'on sait de l'époque romaine et de l'Antiquité tardive. Parce que dans Narbonne même, ben, vous pouvez voir un morceau de la Via Domitia qui passait juste devant le palais des archevêchés. Voilà, vous avez un beau pavement là de voie antique. Vous avez l'Oréum, hein, qui porte un peu mal son nom parce que les gens pensent que c'est souterrain et qu'on y gardait des provisions, hein, que c'était des entrepôts. Mais ça vient à l'idée de personne de garder des denrées là parce que c'est extrêmement humide. Donc il s'agit manifestement des soubassements peut-être d'un marché ou d'une grande place. Mais sinon, il n'y a rien d'autre à voir. Tout a été entièrement démonté. Il y a sûrement des fondations qui sont à découvrir encore quand on fera des fouilles archéologiques, mais aucun monument visible. Effectivement, c'est pour ça que le Narbovia a été créé avec son mur lapidaire, qui est là pour montrer effectivement l'importance de ces monuments antiques, de cette panoplie urbaine, comme on dit à l'époque romaine, hein, de ces monuments dont on n'a plus que des échos par l'épigraphie, une fois de plus, parce qu'on a mention de toute une série de monuments, mais on ne sait pas où ils se trouvaient et on ne les voit plus.
Et c'est des monuments qu'on peut comparer, par exemple, à d'autres grandes villes de l'Empire romain. Je ne veux pas dire Rome, mais c'est
mais
ce
bien
type
sûr,
de
Rome. Ouais. Quand je parle de panoplie urbaine, c'est que toutes les villes romaines se devaient d'avoir les mêmes monuments. C'est ce qui fait la dignitas, hein, la dignité d'une cité, c'est d'avoir des remparts, c'est d'avoir un forum, un temple sur son forum, des thermes, un théâtre, etc. Et tout cela est mentionné à par les inscriptions. Et d'ailleurs, le monument qui a attiré le plus les archéologues, c'est ce fameux Capitole, qui se trouvait sur le forum, comme c'est souvent le cas. Il y avait un temple important sur chacun des forums. Le Capitole, qui était un monstre, hein, en termes de monument, puisque si on le mesure à la maison carrée de Nîmes, il était deux fois plus large et deux fois plus haut. La maison carrée de Nîmes est entièrement en calcaire, quand celui de Narbonne était entièrement en marbre de Carrare. Donc il soutient aisément la comparaison avec les monuments de Rome. Mais malheureusement, on n'en voit que des fragments, certes énormes, mais des fragments dans le Narbovia. Et on ne sait pas à qui il était consacré. On dit souvent Capitole parce que c'est une colonie. Donc on pense à la triade capitoline Jupiter, Junon, Minerve. Mais de fait, on n'a pas d'attestation précise, définitive, concernant ce monument.
Mmh. Donc, on est en train de s'approcher de notre possibilité de temps. Qu'est-ce qu'il y a comme projet de développement ? D'abord, un mot peut-être sur le musée Narbovia, même si tu viens d'en parler. C'est donc, il est abouti, il est terminé ?
C'est un musée terminé qui a ouvert et qui est pleinement opérationnel désormais, qui a vocation à rassembler toute la romanité de Narbonne. Ce qui faisait la caractéristique des collections à Narbonne jusqu'alors, c'était leur éclatement, en fait, sur la romanité. Il y en avait au musée lapidaire, il y en avait au palais de l'archevêché. Ça tient à l'histoire des collections de Narbonne. Il y en avait ailleurs qui étaient tout simplement dispersés quand ça n'était pas dans des conditions privées. Désormais, tout sera rassemblé au Narbovia, qui est véritablement la vitrine de la romanité à Narbonne.
D'accord. Et le reste ?
Le reste.
Ben, le reste de l'histoire de.
Ah.
C'est un autre.
C'est dans d'autres.
C'est dans d'autres lieux.
La proto-histoire et le reste de l'histoire de Narbonne, c'est au musée, à ce qu'on appelait l'ancien musée archéologique. Qui a été dès 1830, en fait, dès 1833, le musée d'origine, en fait. C'est là qu'on entreposait les éléments, y compris les éléments romains. Et très rapidement, ça s'est avéré limité en termes de place. On a donc, au terme de vicissitudes sans fin, récupéré un couvent bénédictin qui est Notre-Dame de la Mourguiller. Entre 1869 et 1910, l'avenir a été, pour ainsi dire, très incertain. Les collections étaient en danger quand elles n'étaient pas soumises aux intempéries. Et récemment, tout a été déménagé dans le Narbovia, depuis la Mourguée, en fait, qui était une espèce de lieu comme on n'en a plus, en fait, un lieu d'amour de la civilisation romaine, d'épigraphie. Tout était stocké plus que muséographié, mais ça avait un charme inimitable. Et aujourd'hui, les blocs sont quand même bien mieux du point de vue de la conservation au Narbovia.
D'accord. Alors, on va engager nos éditeurs à aller le voir, ce Narbovia.
Ah, je pense que c'est une très bonne visite.
Il vaut vraiment le coup. En tout cas, ben voilà, on a quasiment atteint la durée de notre émission. Alors, Sandrine Augusta Boularo, merci beaucoup d'être venue de loin.
Merci.
Non,
merci.
Pas de loin, on repasse loin que ça. Montpellier, c'est la banlieue d'Aix, on pourrait presque dire.
Ou l'inverse.
Ou l'inverse.
Merci Raymond pour l'invitation.
Et Cyril Courrier, ben voilà, merci beaucoup de ta présence et de ce travail-là qui est intéressant. Nous aurons bien évidemment, je le dis à chaque fois, l'occasion peut-être de se revoir, j'espère. Tenez-moi au courant de vos travaux, de vos nouveautés, etc. Moi, je suis preneur à chaque fois et j'aime bien que les gens reviennent parce que ça montre que ça leur a plu et que c'était intéressant.
Avec voilà. Plaisir.
Merci Raymond.
Merci.
Alors, on va saluer nos auditeurs. Au revoir tout le monde et puis à la prochaine.